J'ai notre sœur Elisabeth Bonnet qui demande, je ne sais pas si vous savez, moi j'ai oublié, je ne sais pas, je ne me rappelle plus, qu'est-ce que c'est, la musique que j'ai mise après la prédication l'autre jour, qu'on trouve sur le net, est-ce que quelqu'un se souvient ou a l'idée de ce que c'est? Parce que moi j'ai des milliers de disques, je ne me rappelle plus, qu'est-ce, où est-ce que c'est? Hein? Oui. Non, une musique que j'ai mise sur une prédication. Oui, je me rappelle. Enfin, si ça vous revient, elle demande qu'est-ce que c'est parce qu'elle trouve ça très beau. Donc, mais comme j'ai des dizaines et des dizaines et des dizaines de disques, pour ne pas dire plus, je ne me rappelle plus du tout, il faut que je cherche. Bon, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc ce soir, on va continuer le sermon sur la montagne. On va revenir à Matthieu 6, 25, 30, si vous voulez bien avec moi. Sinon, vous êtes obligés, hein, vous êtes assis là. Je ne vais pas lire un autre verset que celui que je vais lire. Matthieu 6, 25, 30. Vous y êtes. Alors, c'est toujours... ça n'existe pas, c'est formidable. Alors, ça doit être un autre. C'est... c'est ça. 25, 30, voilà, c'est ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez... et boirez pour vivre, ni de ce dont vous serez, dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai prêché déjà l'autre jour sur ce sujet, mais je vais y revenir parce que quand Jésus dit que nous ne devons pas nous inquiéter, ça soulève quand même des questions, à mon avis au moins trois, peut-être certainement plus, mais en tout cas au moins trois. Et je voudrais quand même bien dire qu'il y a des libertés, dont trois libertés en tout cas, je vais voir ça ce soir avec vous, que les disciples de Jésus ne peuvent pas s'accorder. Premièrement, un disciple de Jésus n'est pas exempt de gagner sa vie. Il ne peut pas rester chez lui, assis sur son fauteuil, et puis dire, Seigneur, tu as dit de ne pas m'inquiéter, alors je m'inquiète de rien, tu as dit qu'il faut regarder les oiseaux des champs, les fleurs des champs, je fais comme ça, pour voir mes besoins, ô Père Céleste, tendre Père Céleste. Non, ce n'est pas comme ça. Hein. Paul, il l'a écrit plus tard, il a dit, dans 2 Thessaloniciens 3, 10, hein, c'est la même Bible, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, vous savez que je lis de temps en temps des passages dans le livre de Luther, le réformateur, le livre qui s'appelle « Propos de table ». Ils l'ont réédité, c'est très bien. Je vous le conseille pour vous qui êtes sur Internet, c'est très très intéressant. « Propos de table » de Luther, Martin Luther. Et il y a une phrase de lui que j'ai notée là, je vous la lis. « Dieu n'a que faire des goinfres et des paresseux qui se fichent de tout et n'entreprennent rien ». Ils agissent comme s'il suffisait de s'asseoir et d'attendre que Dieu fasse tomber dans la bouche une oie toute cuite. Vous voyez comme il parlait Luther, c'est super, moi j'aime bien. Alors, Jésus a employé l'exemple des oiseaux et l'exemple des fleurs. Mais il a employé ces exemples comme preuve de la capacité de Dieu de pourvoir aux besoins des hommes. Comme une preuve qu'il peut. Mais en vérité, on ne peut pas dire quand même que c'est lui qui les nourrit. Dieu ne vient pas tous les matins pour mettre un peu de peinture sur les fleurs pour qu'elles soient plus colorées. On ne peut pas dire que c'est Dieu qui vient pour, avec sa main, donner des graines aux oiseaux. Vous êtes d'accord? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les oiseaux, ils se nourrissent eux-mêmes. Les plantes, les fleurs, elles tirent de la terre elles-mêmes la nourriture dont elles ont besoin. Hein, les oiseaux, certains se nourrissent de graines, d'autres de charognes, d'autres de poissons, d'autres d'insectes, de toutes sortes de bestioles. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire Jésus par là? Eh bien, il n'est pas en train de dire que Dieu leur tend la main et les nourrit, leur donne la béquille. Non, 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 non. Il dit en réalité que Dieu met sur la terre, c'est-à-dire à notre disposition, dans toute la nature, ce qui est nécessaire aux oiseaux, aux fleurs, et aussi à nous. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est pareil pour les fleurs des champs. Il met aussi à la disposition des fleurs des champs tout ce qu'il faut. Je ne vais pas vous faire un cours de botanisme. C'est comme ça qu'on dit? Les fleurs ne tissent pas, c'est vrai, comme nous, elles ne tissent pas. C'est vrai qu'elles ne travaillent pas comme nous. Elles ne se lèvent pas le matin pour aller prendre le métro. Enfin, nous, moi, je ne prends plus le métro, c'est fini. Hein, c'était Jean Moinet qui m'avait dit, quand on a passé 35 ans, puis qu'on prend encore le métro, c'est qu'on arrête de rater sa vie. Alors j'ai arrêté de prendre le... Non, c'est pas vrai. On prend pas les fleurs ne prennent pas le métro pour aller travailler, hein, c'est vrai. Pourtant, Dieu les habille. Grâce à un processus complexe qu'il connaît parfaitement. Alors bon, petit cours de botanisme. Il y a l'humus en dessous, à leurs pieds, et il y a le soleil au-dessus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dieu a placé ce qu'il faut pour que les fleurs puissent pousser. Alors nous, en tant qu'humains, qu'est-ce que Jésus nous dit? Il veut nous dire qu'il a tout placé et qu'il veut notre collaboration intelligente. Mes frères et sœurs, avoir recours aux moyens que Dieu met à notre disponibilité, ce n'est pas un manque de foi. Vous voyez, notre foi en Dieu ne doit pas nous empêcher d'utiliser tous les moyens qu'il a mis à notre disposition pour que nous puissions accomplir sa volonté. Alors bon, certains vont me dire les TTTS. Alors pour ceux qui ne sont pas de la communauté, je vous dis qu'est-ce que c'est les TTTS. C'est les très 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 spirituels. Alors ceux-là, ils vont dire... Oui, mais Élie a été nourri miraculeusement par l'intermédiaire des anges et des corbeaux. Oui, mais ça a été et ça reste exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est ce qu'on appelle un miracle. Vous allez me dire, mais Dieu est le Dieu des miracles. Oui, mais les miracles sont des faits exceptionnels. Et dans le mot exceptionnel, il y a le mot exception. C'est-à-dire que c'est des choses qui font exception à la règle. Pour que, il faut vivre dans la réalité, parce que en réalité, dans la vie de tous les jours, Dieu nous appelle, ne pourvoit pas à nos besoins par des miracles, comme par exemple des anges qui nous apportent la soupe. Ah, moi, je suis bien content que c'est Rachel qui me l'a fait. Bon, si c'était les anges, ça serait super. Mais on n'a jamais entendu dire que c'est quelque chose qui se passe couramment. Et Jésus n'a jamais dit que ça allait être comme ça tout le temps. Et la bonne souplette que Rachel me fait tous les soirs, ben, il faut travailler pour la faire. Dieu nous invite absolument fermement à recourir donc aux moyens normaux. Et c'est très important. Il nous invite à nous adresser aux commerçants pour pouvoir avoir la nourriture. Aujourd'hui, Michou et Mélodie sont allés à Carrefour. Moi, j'ai été privé de cette corvée aujourd'hui grâce à notre frère Francis qui est venu nous visiter. J'avais une excuse pour ne pas aller faire la corvée de Carrefour. Eh bien, Dieu nous invite à aller à Carrefour, par exemple, tous les vendredis pour nous de la communauté, pour remplir la voiture de victuailles. Hein. Par exemple, pour le garagiste, on a aussi emmené la voiture communautaire au garagiste pour l'entretien. Hein. C'est sûr, on sait. Mais il y a aussi les médecins, quand on a des souffrances. Les miracles restent des miracles, des faits exceptionnels. Et ça n'est pas un manque de foi d'aller voir un médecin ou d'aller voir un dentiste. Est-ce que vous pouvez dire amen? Luc était médecin et Dieu n'a pas dit « Luc, tu t'es maintenant converti, abandonne ce métier démoniaque, tu me fais concurrence. » Non, N'est-ce pas? Donc, si vous êtes malade, c'est bien de prier, mais allez voir un médecin. La première chose que vous faites, c'est prier. Mais Dieu n'est pas contre le fait que vous ayez recours à la médecine. Amen. Vous voyez, la confiance en Dieu que Jésus nous demande, ce n'est pas une confiance naïve ou archaïque. On ne doit pas ignorer les solutions premières qui se présentent à nous dans le naturel, dans le normal, avec tous les processus scientifiques qui existent et qu'on a découverts, qui sont dans la nature que Dieu a créée. On ne doit pas mépriser ces choses. C'est Dieu qui a fait ça aussi. Alors, il faut avoir recours à ça. Ça, c'était la première chose. Deuxièmement, la deuxième chose, c'est que les disciples de Jésus ne sont pas dispensés d'agir de façon responsable vis-à-vis des autres, avec les autres. Écoutez bien ça. Je pense qu'il faut oser poser la question clairement. Comment se fait-il que malgré les promesses de Dieu, Dieu promet de nourrir et de vêtir les enfants, comment se fait-il qu'on voit tant d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont sous-alimentés sur cette terre et qui sont mal vêtus sur cette terre? Comment ça se fait? Dieu a promis. Comment ça se fait alors? Alors, je trouve que ça serait quand même un petit peu léger de dire « Oh, eh bien, c'est parce qu'il manque de foi. » Vous voyez? C'est la même chose pour la nourriture, c'est la même chose pour la santé, c'est la même chose pour le vêtement, c'est la même chose pour tout. Pour tout. La famine dans ce monde, ce n'est pas parce que Dieu a fait une erreur. Elle est le résultat, elle est la conséquence d'une répartition injuste des biens que Dieu a mis à notre disponibilité. Dieu a pourvu, il a pourvu abondamment avec beaucoup, avec tout. Même il y a des choses qui sont, il aurait pu les faire mauvaises, mais non, en plus c'est bon à manger. Dieu a pourvu d'une façon magnifique, mais l'homme gâche, gaspille, gère malhonnêtement toutes ses ressources, il ne partage pas. Le fait que Dieu nourrisse et habille ses enfants, ça ne nous dispense pas d'être les agents de son projet de nourrir et de vêtir les enfants. Et les grands aussi. Amen. Quand vous lisez Matthieu, si vous lisez seulement le sermon sur la montagne, c'est très bien déjà. Mais si vous lisez tout l'évangile de Matthieu, vous allez voir que d'un côté, Jésus dit que le Père nourrit, donc le Père céleste nourrit et habille ses enfants. Mais vous allez voir que d'un autre côté, Jésus dit que nous devons nous-mêmes nourrir les affamés et que nous devons nous-mêmes nous vêtir ceux qui sont nus. N'est-ce pas la vérité? Alors c'est quoi ça? C'est lui qui le fait ou c'est nous qui devons le faire? Il ajoute au verset 20, au chapitre 25 pardon, que c'est en fait sur ces actes-là que nous serons jugés, nous autres. Est-ce que vous avez vêtu ceux qui étaient nus? Est-ce que vous avez nourri ceux qui sont affamés? Est-ce que vous avez été rendre visite à ceux qui sont dans les hôpitaux, dans les prisons? Est-ce que vous avez fait ça? Hier, j'étais avec Francis dans une maison de retraite. On est allé visiter sa maman. Ben, toutes les personnes à qui on a parlé, c'est de ça dont elles se plaignent. Pas de visite. J'ai vu une femme, elle a 17 enfants. Elle a eu 17 enfants. En fait, elle en a eu 16, elle en a adopté un 17e. Qui vient la visiter? Et Jésus nous jugera sur ces actes-là. Avez-vous nourri? Avez-vous vêtu? Avez-vous rendu visite? Avez-vous fait? Vous voyez, mes frères et sœurs? Alors, il y a une troisième chose encore. Ça, c'est la deuxième. Maintenant, il y a une troisième chose. Nous ne devons pas nous soucier. C'est vrai. Il a dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous faites pas de soucis pour ça. Mais nous devons savoir une chose et la savoir d'une façon certaine et absolue. C'est que les difficultés ne sont pas épargnées aux disciples de Jésus. Vous avez entendu souvent Violette dire « Le mal atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » C'est vrai. On n'est pas épargné. Ça signifie que Dieu ne permet pas... Il est nulle part dit que nous allons échapper à toutes les difficultés. Nulle part. Jésus ne nous promet pas l'immunité contre les moments difficiles. Jamais. Il nous dit de regarder l'herbe des champs il nous dit que Dieu l'habille, mais il nous dit aussi qu'après, il est coupé, jeté au feu, c'est pas vrai? Si vous écoutez bien là ce qu'il est en train de dire, Jésus, il est en train de dire, par exemple, il parle des passereaux, il dit, ne vend-on pas un passereau pour deux sous? Ah, pourquoi on vend les passereaux pour deux sous? Vous pouvez être vendu. N'êtes-vous pas plus que les oiseaux? Vous valez plus, on vous vendra peut-être plus que deux sous, mais c'est possible que vous soyez vendu. Pas seulement nourri. C'est le même Dieu qui les a nourris qui permet qu'ils soient vendus. Il dit, et s'ils tombent par terre, Dieu le sait. Ils finissent tous par tomber par terre, les oiseaux, non? Mais bien sûr. Et ça n'échappe pas à Dieu. En fait, Dieu savait quelle était leur destinée. Dieu savait pendant qu'il les nourrissait, dans la manière dont je vous ai parlé tout à l'heure, Dieu savait pendant qu'il les nourrissait qu'ils allaient tomber par terre. Un jour ou l'autre. Trouvez ça dans Matthieu 10, 29. Jésus n'a pas promis qu'il ne tomberait jamais. Jésus n'a pas promis qu'il ne serait jamais vendu. Il a juste dit qu'il ne tomberait pas par terre sans que le Père céleste ne le sache et n'y consente. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce que Jésus a dit. Il le sait et il y consent. C'est normal. Hier, je parlais avec une personne. Elle disait, moi quand même, j'ai de la peine avec Dieu. Je doute quand même. Il m'a repris ma fille. Hein? Mais c'est quand même bizarre de dire ça. Comment est-ce qu'on peut douter de Dieu parce qu'on a perdu sa fille? D'abord, je n'ai pas voulu aller très loin avec elle dans l'explication. Je l'ai consolée comme j'ai pu. Mais si ça avait été une personne plus jeune, j'aurais parlé un petit peu plus cru. J'aurais dit, mais madame, si Dieu n'existait pas, vous doutez de Dieu parce qu'il a repris votre fille. Si Dieu n'existait pas, votre fille n'aurait jamais existé et vous non plus. Mais c'est dans le processus naturel. Tout le monde vient au monde, on vit, puis on meurt. Et il n'est jamais dit que les parents partent avant les enfants. C'est sûr que ce n'est pas très agréable de voir son enfant mourir, mais ça n'est jamais dit que ça n'arrivera jamais. Et ce qu'il faut, c'est qu'on se prépare à des choses comme ça. Qu'on sache que c'est comme ça. C'est possible que Dieu ne nous a pas mis dans la possibilité d'échapper à toutes ces choses-là. Pas du tout. Les gens meurent, les avions tombent. Un jour, j'ai vu un homme tomber comme ça devant un grand supermarché, mourir là. Les gens tombent, les oiseaux tombent, les avions tombent, tout tombe. La loi de la gravité, elle n'est pas annulée à cause de nous. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on est devenu chrétien que la loi de la gravité n'existe plus. Mais ces événements ne lui échappent pas. Ça, c'est important. Et finalement, Jésus ajoute au verset 34, vous verrez après, une raison supplémentaire pour laquelle ses disciples ne devraient pas se faire d'inquiétude. Une raison supplémentaire. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. Et le mot peine, en hébreu, c'est le mot kakia. Et le mot kakia signifie le mal. À chaque jour suffit son mal. Le mal existe bel et bien. Et on n'y échappe pas. Chrétien ou pas chrétien. Hier, j'écoutais une conférence à la télévision et il disait « Que vous soyez quelqu'un de bien ou que vous soyez quelqu'un de pas bien, si vous tombez d'un gratte-ciel de 50 étages, vous allez vous écraser. » Dieu ne fait pas de différence. Et si vous ne vous écrasez pas en tombant d'un gratte-ciel de 50 étages, c'est un miracle, mais les miracles restent exceptionnels. Si vous ne pensez pas que les miracles restent exceptionnels, alors je vais vous dire comme Satan a dit à Jésus, ben jette-toi en bas le temple. Vous comprenez? Jésus nous enseigne donc que la possibilité d'être libéré de l'inquiétude ne vient pas de l'assurance d'une protection tout risque, d'une assurance tout risque. Pas du tout. Mais la possibilité d'être libéré de l'inquiétude, elle vient de notre perception de la nature, de ce que c'est que la nature de l'inquiétude. L'inquiétude, ça ne vient pas de Dieu. C'est ça le truc. C'est pour ça que Jésus dit, ne vous laissez pas avoir par ça. L'inquiétude ne vient pas de Dieu. Si on a cette perception, c'est ça qui est important. Je répète. Jésus nous enseigne que la possibilité d'être libéré de l'inquiétude ne vient pas de l'assurance d'une protection divine, tout risque, pas du tout. mais elle vient de notre perception de ce que c'est que l'inquiétude. L'inquiétude ne vient pas de Dieu. C'est quelqu'un, un esprit qui vient et qui vous souffle des trucs et vous êtes hypnotisé par ça. Il y a des gens qui me disent « Oh, moi, je peux essayer les hypnotiseurs, ils n'arriveront pas sur moi. » Je regarde un petit peu comment ils vivent, ils sont hypnotisés. Ils sont en transe toute la journée. Ils sont hypnotisés toute la journée. Dieu est concerné par nos souffrances, par les souffrances auxquelles on ne peut pas échapper. Il est concerné. Alors c'est dans ce sens-là qu'on doit prendre la parole de Jésus. Et puis celle de Paul aussi, dans Romains 8, 28, qui dit que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. C'est dans ce sens-là qu'on doit prendre les paroles de Dieu. Alors, bon, je prêche, j'ai dit ces choses, mais je vais vous faire atterrir là un coup. Je pense à Nicolas, mon ami, notre ami Nicolas Savadogo, qui est à Ouagadougou aujourd'hui, enfermé dans sa maison parce que dehors, ça tire des coups de feu. Ça brûle les magasins, ça brûle la mairie, ils ont mis le feu à la mairie, ça brûle, ça brûle dans la ville, les gens crient, il y en a qui meurent. Je pense à mon ami Boukari et sa femme, je pense à ces gens là-bas qui sont dans la ville de Fada, ça tire dans les rues, l'armée se soulève, l'armée se révolte, et tout le monde est enfermé dans les rues, on peut prendre une balle perdue ou se faire simplement tuer comme ça, parce que voilà, hein. Et puis, je pense à l'appel de Jésus, que Jésus nous fait de considérer les oiseaux et les fleurettes. Dans une situation aussi dramatique, est-ce que c'est pas un petit peu, ça ne semble pas un peu déplacé de dire, Nicolas, pense aux oiseaux, pense aux petites fleurs, t'inquiète pas. Ça pourrait sembler déplacé. Mais frères et sœurs, après avoir regardé les petites fleurs et les oiseaux, regardez aussi l'homme qui a dit cette parole au sujet des petites fleurs et des petits oiseaux. Regardez cet homme, Jésus, son existence sur terre. Elle n'a pas été tissée dans des champs joyeux et aussi avec des fleurettes qu'on jetait sur son chemin. Écoutez-le. Pendant qu'il était en train de parler des fleurettes et des oiseaux, il savait déjà qu'il était venu pour une heure précise, celle de la croix. Il le savait. Est-ce qu'il s'inquiétait? Est-ce qu'il se rongeait les ongles? Non, il prêchait, il encourageait, il bénissait, il s'occupait des autres, il nourrissait les autres, il donnait beaucoup d'argent à tout le monde. C'est écrit tout ça. Il prenait soin des autres. Il ne s'inquiétait pas et pourtant il y avait de quoi. Il savait qu'il allait être condamné à mort. Alors, écoutons-le, c'est pas déplacé l'histoire des oiseaux et des fleurettes, pas du tout. Quand c'est Jésus qui le dit, nous avons toutes les raisons d'avoir confiance dans son amour et dans sa sagesse, parce qu'il nous a montré un exemple qui dépasse tout. Amen. Merci Jésus de nous aider à bien saisir ces choses, et à les vivre, à nous détourner de l'inquiétude, à porter nos regards sur toi, en étant logiques selon toi. Et nous voulons remettre nos sentiments entre tes mains, afin qu'ils soient oints, qu'ils soient bénis, qu'ils soient sanctifiés, et que nous ne souffrions pas outre mesure, au nom de Jésus-Christ mon Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu.